Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La guerre de 100 ans » de Georges Minois est un ouvrage d'histoire qui propose une synthèse ample et structurée du conflit franco-anglais de 337 à 1453. Publié dans une collection de vulgarisation savante, le livre ne se contente pas d'aligner les batailles célèbres ou les grands noms associés à la période. Il cherche à montrer comment cette longue guerre a modifié en profondeur les équilibres politiques, militaires, économiques et culturels de l'Europe médiévale. Minois adopte une perspective large, attentive aux enjeux de durée, aux trêves, aux transformations des États et aux mutations des mentalités. Son objectif est aussi historiographique, replacer la guerre de 100 ans dans une histoire plus globale de la fin du Moyen-Âge, en expliquant pourquoi ce conflit est souvent présenté comme un moment de bascule vers l'époque moderne et la formation des nations françaises et anglaises. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une synthèse chronologique des grandes séquences du conflit. Le premier apport du livre est de donner une lecture d'ensemble du déroulement de la guerre, depuis ses origines dynastiques jusqu'à l'issue favorable au royaume de France en 1453. Georges Minois articule le récit autour des grandes séquences militaires et diplomatiques, ce qui permet de comprendre que la guerre de 100 ans n'est pas une guerre continue, mais une succession de phases de violence, de retournements et de longues accalmies. Les batailles de Crécy, Poitiers et Azincourt servent de repères, non comme simples épisodes spectaculaires, mais comme moments révélateurs des rapports de force. Cette structure chronologique aide le lecteur à suivre les évolutions stratégiques et politiques sans réduire le conflit à une suite d'événements isolés. Elle met aussi en évidence la persistance des enjeux territoriaux, féodaux et successoraux, qui explique la durée exceptionnelle de l'affrontement. Minois cherche ainsi à rendre lisible une période complexe en lui conservant sa cohérence historique. Deuxièmement, le conflit comme guerre totale et transformation des moyens de guerre. Le livre insiste sur l'idée que la guerre de 100 ans dépasse largement le cadre d'une guerre chevaleresque entre deux monarchies. Minois la présente comme une forme de guerre totale pour son époque, car elle mobilise durablement les ressources humaines, financières et techniques de plusieurs royaumes. Cette lecture permet de comprendre la montée en puissance des armées permanentes, l'élargissement des besoins fiscaux et l'intensification des destructions sur les populations civiles. L'auteur accorde aussi une place importante aux mutations de l'art de la guerre, notamment à l'évolution de l'armement et à l'apparition progressive de l'artillerie. Le conflit devient alors un laboratoire où les anciennes pratiques militaires reculent devant de nouvelles logiques de siège, de feu et d'organisation. Cette approche donne au livre une portée explicative forte. La guerre n'y est pas seulement un décor héroïque, mais un moteur de transformation technique et sociale. Le lecteur comprend ainsi pourquoi ce conflit marque une rupture dans l'histoire militaire européenne. Troisièmement, Jeanne d'Arc, du Guesclin. Le prince noir des figures replacées dans leur contexte, Georges Minois ne traite pas les grandes figures du conflit comme des héros isolés, mais comme des acteurs inscrits dans des rapports de force plus larges. Jeanne d'Arc, du Guesclin, le prince noir, Charles VII ou encore Charles le Mauvais apparaissent dans le livre comme des personnages historiques dont l'action prend sens à l'intérieur d'un système politique et militaire complexe. Cette méthode est importante car elle évite l'effet de légende et la simplification biographique. Jeanne d'Arc, par exemple, n'est pas présentée seulement comme une icône nationale, mais comme un élément décisif d'une conjoncture militaire et symbolique précise. De même, du Guesclin n'est pas seulement un chef de guerre, mais un révélateur des nouvelles formes de commandement et de fidélité politique. En replaçant ces figures dans leur contexte, Minois montre comment les mémoires nationales se construisent souvent après coup, à partir d'événements réinterprétés. Le lecteur gagne ainsi une vision plus nuancée et plus critique du récit traditionnel de la guerre. Quatrièmement, la naissance progressive des nations françaises et anglaises. L'une des thèses les plus fortes du livre est que la guerre de 100 ans a contribué à la formation des identités nationales en France et en Angleterre. Minois montre que le conflit, commencé comme une querelle de suzeraineté et d'héritage, se transforme peu à peu en affrontement entre deux ensembles politiques qui prennent conscience d'eux-mêmes. Cette évolution ne dépend pas seulement des victoires ou des défaites militaires. Elle passe aussi par la consolidation des appareils d'État, par l'affirmation d'une fiscalité plus stable, par la centralisation du pouvoir et par l'usage croissant de références linguistiques et culturelles distinctes. L'intérêt de cette perspective est de relier la guerre à la construction politique de longue durée. Le conflit ne produit pas immédiatement des nations modernes, mais il accélère une séparation durable entre deux trajectoires historiques. Le livre montre ainsi que la guerre de 100 ans a été un moment fondateur non seulement pour les monarchies, mais aussi pour les imaginaires collectifs qui ont ensuite structuré l'Europe occidentale. En dernier lieu, une lecture des mutations sociales. économique et mentale de la fin du Moyen-Âge, au-delà du récit politique et militaire, le livre propose une interprétation globale des effets du conflit sur les sociétés européennes. Minois explique que la guerre de Cent Ans a bouleversé les équilibres économiques, renforcé certaines formes d'étatisation et transformé les représentations collectives de la guerre, du pouvoir et de la communauté. La durée du conflit, les destructions, les crises financières et les tensions fiscales ont modifié le rapport des populations à la monarchie et à la guerre. L'ouvrage met aussi en lumière la dimension culturelle de cette transformation. La langue, les loyautés et les récits historiques deviennent des marqueurs de distinction entre les royaumes. Cette lecture de longue durée fait du livre plus qu'une simple histoire événementielle. Elle en fait une enquête sur la fin du Moyen-Âge comme période de recomposition profonde. Le lecteur peut y comprendre comment un conflit militaire devient un phénomène social total, capable d'infléchir les mentalités et les formes du pouvoir bien au-delà des combats eux-mêmes. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent une vue d'ensemble sérieuse sur la guerre de Cent Ans, sans se limiter à une chronologie de bataille ou à quelques figures célèbres. Il convient aux amateurs d'histoire médiévale, aux étudiants et à tous ceux qui veulent comprendre pourquoi ce conflit occupe une place si importante dans l'histoire de France, de l'Angleterre et plus largement de l'Europe. Son principal intérêt est de combiner récits historiques, interprétations et mise en perspective, avec une ambition de synthèse rarement atteinte dans les ouvrages de vulgarisation, là où beaucoup de livres se concentrent soit sur l'événementiel, soit sur l'héroïsation de Jeanne d'Arc. Minois relie la guerre aux transformations de l'État, des techniques militaires, des économies et des identités collectives. Cette capacité à articuler le détail et la longue durée en fait un ouvrage distinctif dans sa catégorie. Il offre au lecteur non seulement des connaissances, mais aussi une grille de lecture pour comprendre la fin du Moyen-Âge comme un moment décisif de recomposition européenne. Si vous souhaitez soutenir Georges Minois, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.